Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver comme une chaque semaine. On vous accueille pour passer en revue l'actualité des séries. 26 minutes de face à face avec une personnalité qui fait le monde des séries. Et cette semaine, on s'intéresse à l'une des mini-séries événements de France Télévisions, déjà disponible sur la plateforme France.tv. Elle arrive le 6 avril, ce sera sur France 2. Je sais pas, c'est son titre, regardez.
Emma !
Emma !
Ça va ma grande ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es perdue dans la forêt ?
Je sais pas.
Tu t'es fait mal ?
C'est le foulard de Jade, ça.
Tu l'as vu dans la forêt ?
Je sais pas.
Tu sais, ma puce, ça arrive de blesser quelqu'un. Et de se perdre en forêt aussi.
Est-ce que t'as pris Emma par les poignets récemment ?
Quoi ?
Tu as tué la maîtresse ? T'es une sorcière, en fait.
Jade, elle est diabétique. Je sais même pas si elle a son insuline. Faut le dire à ta fille, hein, ça va peut-être la faire parler.
Diabétique, ça peut rester combien de temps sans ces médicaments ?
Tu crois qu'Emma aurait pu faire quelque chose à Jade ?
Qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 6 ans fasse à une adulte ?
Emma ! Emma ! Faut que tu me parles ! Dis-moi ce qui s'est passé !
Je sais pas !
Pourquoi t'as rien dit ? Tu comprends que c'est important ?
Je sais pas.
Votre petite fille n'a que 6 ans, c'est vrai ? Mais elle est bien plus coriace que la plupart des adultes qui viennent ici.
Je crois qu'elle a fait quelque chose.
Pourquoi elle dit rien ? Elle a le droit de pas se souvenir.
Si seulement tu m'avais parlé avant.
Il y a d'autres choses comme ça que vous avez oublié de me dire ?
J'ai fait une grosse bêtise.
Voilà, je sais pas, la nouvelle mini-série événement ambiance très Hitchcockienne avec donc David Kamenos et Lola Devers dans les rôles principaux et puis cette petite fille étrange. Et pour orchestrer tout ça, un réalisateur qu'on aime beaucoup ici. Bonjour Fred Rivoire.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à nouveau. On vous suit beaucoup et on aime beaucoup votre travail depuis qu'on l'a découvert, notamment avec la série Trauma sur 13e rue. On sait que vous aimez les ambiances et les histoires un peu singulières. Je sais pas, en voilà une qui s'intéresse à quelque chose d'assez particulier. Est-ce que le mal peut se retrouver dans ce regard innocent de cette petite fille, quoi, grosso modo ?
Ben, je sais pas.
Ça va être le jeu. Voilà. Il va répondre à ça tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est...
Déjà, quand on dit ah, qu'est-ce que t'as fait dernièrement ? Ben, je sais pas.
On est presque sur juste le blanc.
Ouais. Non, mais j'avais. À un moment, j'ai proposé au producteur et à la chaîne, vous n'avez pas changé de titre, je trouve ça un peu bizarre. Et en fait, non, ils avaient raison, c'est un super titre. Est-ce que bah, le mal, ouais, je sais pas, il est un peu partout.
Donc, il n'y a pas de raison que les enfants y échappent ?
Non, je pense pas. Moi, j'en ai fait un peu mon fonds de commerce, hein, c'est oui. Vrai. Qu'on parle de trauma ou d'autres choses que j'ai fait. Il est banal, le mal, hein, comme disait Hannah Arendt. Donc,
Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que cette petite gamine, elle a l'air quand même... C'est l'innocence incarnée. Il faut expliquer. Elle se perd dans la forêt à la faveur d'une balade avec ses copains.
Ouais, une sortie scolaire.
Tout le monde la cherche. Ça, on l'incite, part à sa recherche. Et la gamine revient et n'a pas l'instit. Et à partir de là, à chaque fois qu'on lui pose la question « Qu'est-ce qui s'est passé ?», sa seule réponse est ouais. « Je ne sais pas. »
Elle n'a rien à raconter. Et elle ne veut pas raconter. Alors, c'est très, très difficile de raconter ce qui se passe après, sans spoiler, parce que... Moi, c'est ce qui m'avait plu à la lecture, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de surprises, que le thème... Alors, il y a le thème, effectivement, est-ce que le mal... Enfin, à quel âge ça commence, hein,
ouais.
Mais après, on est sur d'autres choses, sur les faux-semblants. Est-ce que... Parce qu'il y a quand même un moment dans la série où personne n'est ce qu'il dit qu'il est, mais vraiment personne. À part elle, peut-être, d'ailleurs.
C'est peut-être celle qui garde son...
C'est peut-être la seule qui n'a pas de secret, qui n'a pas grand-chose à cacher.
Voilà. Elle est le catalyseur qui va permettre aux adultes qui sont autour ouais. d'elle, finalement, de révéler leur part de mystère.
Elle est, ouais,
de...
C'est ça. Elle est plus le catalyseur de l'ombre que tous les autres personnages ont en eux qu'elle-même, finalement. Parce qu'elle n'est pas comme beaucoup d'enfants. Enfin, c'est une page blanche.
On dit souvent que quand on est un réalisateur... Il y a deux types de situations qui sont compliquées à gérer pour diriger. C'est une boîte de nuit et des enfants. Alors il y a pas de boîte de nuit.
La boîte de nuit,
la boîte de nuit, ça peut souvent être un capharnaüm. Il faut être capable de le gérer.
Alors, j'en ai fait pas mal, mais ça m'a jamais. Non.
Mais les enfants, ça peut être compliqué.
Alors ce qu'on dit plutôt souvent, c'est pas les enfants, pas les animaux, pas dans l'eau.
Ouais.
Mais il y avait ça aussi qu'on me dit depuis le début de ma carrière. Je les ai tous faits. J'ai fait pas mal de tournages avec des enfants. Donc j'ai l'habitude de ça. Je suis moi-même un enfant acteur à la base.
Ouais.
Vraiment ce qu'il y a de pire. Donc les enfants, c'est comme tous les acteurs. Hein. Il faut pas se planter au casting. Mais c'est un casting qui est beaucoup plus long.
Surtout quand on veut aller là chercher quelque chose de trouble.
Ouais. Alors il y a deux cas de figure quand on casse des enfants. Il y a des enfants qui ont l'habitude, qui ont tourné beaucoup. Mais le jeu est toujours un peu formaté. Parce qu'en fait, les enfants, très souvent, on cherche une nature. Et puis, on lui fait apprendre le texte. Et soit toi. Ce qui n'est pas du tout le travail d'un acteur. Ce qu'on aimerait bien,
évidemment,
mais qui est hyper rare, c'est des enfants qui ont la maturité, parce que ça n'est que ça, du jeu. Et donc en fait, on cherche plusieurs trucs. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut qu'ils soient capables de jouer, donc qu'ils comprennent que, est-ce que quand on leur dit « Est-ce que tu pourrais la refaire un peu plus comme ci ou comme ça ?» ils aient la maturité de se dire « Ah oui, alors là, comment je peux faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» On les aide, hein. Et puis, qu'ils aient la maturité de comprendre ce qui se passe sur un tournage, parce que la vérité, c'est que sur un tournage, on passe quand même son temps à attendre quand on est acteur.
Oui.
Donc c'est chiant. Et que on n'a pas envie qu'il soit toute la journée sur un iPad ou sur un téléphone, parce que la concentration après c'est plus compliqué. Enfin, voilà, il y a pas mal de paramètres. Les enfants vraiment acteurs, ils sont très très rares. Et ben là, on a trouvé quelqu'un.
Elle est incroyable.
Elle est incroyable. Moi, on a vu beaucoup d'enfants. J'avais choisi au final une petite fille qui était plus âgée, mais qui paraissait plus jeune, mais qui avait déjà beaucoup tourné. Et il y avait un truc assez formaté dans le jeu. Elle jouait bien, hein. Mais Élodie, qui n'avait jamais joué, qui n'avait jamais vu un plateau, en fait, j'ai fait le test. Elle est venue, elle a fait la lecture avec Lola et David, d'ailleurs. Et on a fait une première passe, puis une deuxième passe. Et la deuxième passe, je lui demande de jouer totalement autre chose, sur le même texte. Et c'était incroyable. Et elle avait tout de suite pigé et elle n'avait pas encore été formée. Donc après, elle a travaillé avec une coach pour apprendre ce que c'est qu'une caméra, pourquoi on la met là, pourquoi après on fait l'autre sens et pourquoi tatatitatata, pourquoi on attend. Et ça a été formidable parce qu'elle était, elle était super rapide. Elle amenait des choses, elle suggère, enfin vraiment comme un professionnel.
Et est-ce que la clé pour ce genre de comédienne, donc très jeune, qui n'ont pas d'expérience évidemment, quand on veut jouer quelque chose d'inquiétant comme ça, c'est de ne pas lui faire jouer le côté inquiétant finalement.
Mais non, parce qu'elle comprenait. J'avais pas ce problème. Donc elle comprenait, elle trouvait ça rigolo de faire la méchante. Voilà. Et alors elle savait pas tout, hein. Il y a certains aspects qu'on lui a cachés. Alors je sais pas si ses parents vont lui montrer la série en entier. Je pense que. Ouais, quoique ça fait un peu peur de temps en temps. Mais quand elle a vu le fantôme, elle a eu un peu peur. On lui a présenté avant au maquillage, hein, mais
évidemment.
Mais ça la faisait bien rigoler au final. Il y a des
devoir claquer table sur la main de son copain, ça a dû la faire marrer.
Ouais, ouais, ça c'était très technique, donc
faut y arriver, hein.
Ouais, mais c'était assez compliqué parce qu'il fallait faire tomber, et puis il y avait tout un truc avec un chef cascadeur et des accessoires qui étaient vissés de main, enfin voilà, pour que la table tombe, mais tombe pas sur la main, mais juste au-dessus. Enfin bon, tout un truc. Ça c'était plutôt ennuyeux à faire parce que Élodie, elle a un truc marrant, c'est qu'en fait elle est fan. Et elle en fait depuis un bon moment de flamenco. Donc en fait, elle a un truc artistique où elle sait ce que c'est que répéter et s'entraîner et travailler. Faire un truc de cascade, pour elle, c'était plus ennuyeux que faire un truc de jeu où qu'elle aimait bien. Parce que, de temps en temps, elle est venue me voir, mais comme les professionnels, en me disant, je pourrais la refaire, j'ai pensé à un truc.
Voilà. Elle a quel âge ?
Quand on a tourné, je l'ai castée, elle avait 6 ans, son anniversaire était pendant le tournage. Donc elle a eu 6 et 7 ans, ce qui est vraiment très jeune.
Ce qui est incroyable parce que elle donne énormément dans cette série,
ouais.
Notamment effectivement un peu plus dans les deux premiers épisodes que dans les deux suivants, puisque la série est un peu fabriquée en soirée, comme on dirait aujourd'hui, avec vraiment un focus sur les deux épisodes où elle est, puis après la série prend une autre tournure dans les deux, dans les deux suivants, ouais. Tout en essayant évidemment de répondre aux questions, avec au centre de ça le roman de Barbara Bell qui est à l'origine de la série, et cette question de l'enfant terrible, de l'enfant démoniaque. On va voir un extrait, non pas de la série, mais on va voir un extrait de ce que ça donne un enfant démoniaque. Évidemment, c'est le roi du genre, je dis Richard Donner. Évidemment, oui. On repart en 1976, oui, regardez ce petit extrait. C'est La Malédiction de Richard Donner en 1976. Il faut dire que voilà, le Damien, là, c'est le paroxysme de l'enfant démoniaque, dans le sens littéral du terme. Il est l'enfant...
Et puis lui, on sait.
Il est le fils du diable.
Ouais, on sait depuis le début.
Adopté par un couple de diplomates. Ouais. Et quand les animaux sont en contact de lui, voilà ce qui se passe. Mais il y a aussi toute une séquence, je crois que c'est un peu avant, où ils se rendent à la messe du dimanche matin et où l'approche de l'église, il se met à transpirer et, ouais, et à devenir tout rouge. Bref, ça se passe très, très mal. Mais c'est vrai qu'on a tous en tête, à chaque fois qu'on parle d'enfant démoniaque, on parle de ce... On
et puis ça fait hyper peur.
Et ça fait hyper peur. Ouais. La difficulté, c'est que là, en plus, on est au cinéma. La difficulté, c'est que là, vous êtes sur de la télévision en plus de hertzienne. Donc, est-ce que il faut pousser les curseurs sans trop les pousser? Donc, c'est ça la difficulté. Et quand on est quelqu'un comme Fred Grivois, ça doit être compliqué de pas lâcher les chevaux quand on a envie de les lâcher.
Alors, ouais. c'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est souvent mon problème. Oui, sur, par exemple, quand j'avais fait Trauma, on avait une scène avec un des personnages qui meurt à la fin. c'est le seul plan que la chaîne m'a demandé d'enlever. j'avais un plan où Sébastien Lalanne, avec beaucoup de sang, il se faisait égorger.
La carotide
et,
partait.
Ouais, et puis nous, on s'était bien marré à le faire. Mais comme toujours, c'est des trucs qui sont marrants à tourner. Ça m'était arrivé sur, sur l'invitation que j'avais.
Ah ouais, tiens, regarde, on a une photo. J'y avais pensé, forcément. L'invitation qui était un film OCS signature où il était question, évidemment, il y avait déjà d'ailleurs...
Un truc avec les enfants,
ouais. Avec les enfants et puis avec...
Alors, oui, bah, alors, typiquement...
Avec certains comédiens.
Il y en a plusieurs. Il y avait typiquement... dans le sens, bon, maintenant, je peux spoiler le film. Il est
de 2021.
Ouais. Non, mais par exemple, quand il y a Hubert avec son truc, il s'enfonce un truc dans le cou, il l'enlève... mais là, j'avais demandé au chef accessoiriste de respecter toutes les contraintes de ce que c'est que la pression dans une carotide qui se perce pour que le jet, je voulais la même longueur et tout. Donc, ça avait été une galère pour eux, mais c'est assez impressionnant. Je me rappelle que quand on a montré le premier montage, on était en montage avec Olivier Galliano, le monteur, et on se fait une projection. On avait une stagiaire qui était là de la scène finale. Avec la batte de baseball, qui est un truc qu'on vraiment a tourné. On a énormément ri. On n'avait pas du tout prévu que si on voulait que quand elle tape, on voulait qu'il y ait du sang qui remonte, ouais. Mais on n'avait pas prévu que vu le geste qu'elle faisait, on en mettait plein le plafond. Qu'en plus, les gens chez qui on tournait, on leur a laissé une maison avec du sang mais partout. Je me rappelle que le lendemain, Margot, elle ne pouvait plus monter les bras plus haut que ça, parce qu'elle avait passé une journée à faire des gestes. Elle avait des courbatures.
J'imagine.
Et oui, là, on s'est un peu lâché. C'est-à-dire que la scène finale,
elle est bien.
Et la stagiaire qui était avec nous, là, quand on lui a montré la scène la première fois, elle est devenue toute blanche et elle a failli tomber dans les pommes. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas mesuré les fous rires que j'avais avec Margot à tourner ça. Et une fois qu'on met ça dans le montage, la violence que ça représente. Donc, on a beaucoup diminué.
Et là, sur je sais pas, il faut trouver le bon curseur, j'imagine.
Alors, il faut trouver le bon curseur.
Qu'est-ce que je peux montrer? Et puis surtout, jusqu'où je peux dire si elle est ou pas démoniaque. Parce que je pense aussi à un film qui est sorti il y a quelques années maintenant qui s'appelait Il.
Ouais.
Qui est là aussi un peu dans ce registre-là. Alors, sans trop, là pour le coup, bon, ça fait longtemps aussi, mais c'est vrai que pendant très longtemps, on se demande qui leur court après, ce couple dans cette maison en Roumanie. Et puis, à la fin, on se découvre que c'est des gamins qui s'amusent, quoi. Ou alors, il y a aussi Eden Lake, ouais, où c'est un couple poursuivi par des ados dans une forêt.
Ouais, ils sont plus vieux déjà.
Ils sont plus vieux. Lake. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'on peut montrer dans une série, notamment sur France Télévisions?
Bah, je trouve que déjà, ils ont été hyper courageux, parce que moi, ce qui me faisait marrer, après avoir fait un truc comme Machine, c'était d'abord, il y a un tout petit peu de fantastique. Alors, c'est une espèce de projection mentale
que
la petite fille a de ce qui aurait pu se passer. Maintenant, on n'est pas là pour, à heure de grande écoute, comme j'avais pu faire dans les autres trucs où je m'amusais à envoyer du sang un peu partout. Non, c'est pas le sujet. Ce que je trouvais intéressant là, c'était les jumpscares. J'adore ça. Et c'était vraiment de se poser tout le temps la question, à la fois avec mon chef-op et pas mal de membres de l'équipe, en fait, c'est de faire sursauter. Qui est quand même une super émotion au cinéma et à la télé. Donc c'est pas... Je fais toujours la différence entre l'horreur et l'épouvante. Voilà, on n'est pas là pour asperger de sang. Il y a l'exorciste et puis il y a... je pensais plus à Poltergeist, qui n'est pas un film très horrifique. Il n'y a pas, mais...
pas grand-chose. Mais par contre...
Non, mais on se demande tout le temps qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Et c'est ça que je trouvais marrant à faire. Donc, et même avec le compositeur, avec Thomas Capot, on s'est éclaté. Parce qu'il y a plein de moments où on crée des fausses tensions. Il y a un truc dont on parle beaucoup là depuis que ça a été diffusé. Mais si je le balance, je ne vais pas vous...
Ça va être un spoil. Donc, non ?
Est-ce que je le fais ou pas ? Non, mais en fait, c'est une totale surprise. Il y a une scène où elle regarde sous son lit et elle a une mèche de... Enfin, en tournage, elle a une mèche de cheveux qui tombe. Je montre les rushs chez moi à ma femme qui est très sensible au jumpscare. Et donc, il n'y a pas le son, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il ne s'est pas mixé. Donc
c'est le résultat brut.
Ouais, c'est le résultat brut, c'est pas étalonné, c'est un peu dégueulasse à l'image. Et je vois que juste avec la mèche de cheveux qui tombe, ma femme sursaute. Et je me marre. Et donc, forcément, après, j'ai gardé ça. Non, mais j'ai dit au compositeur, là, tu me mets un coup de violon. J'ai dit au monteur, ça, tu me le gardes tel quel. Et tu pousses au maximum. Et au mixage, on pousse le son. Et on fait sursauter tout le monde avec une mèche de cheveux qui apparaît dans... Alors que c'est pas du tout prévu. Et en fait, ça n'apporte pas grand-chose à la narration. Par contre, l'idée étant...
On se fait plaisir avec le jumpscare.
On se fait plaisir avec le jumpscare. Et surtout, c'est ce qu'on essaie de faire. Tout peut arriver. Voilà. Et c'est ce que je pense... C'est un truc qu'il faut faire en série. Parce que la série, on est quand même sur un temps très long. Et il faut toujours... C'est ce que faisait... Il y a beaucoup de séries qui faisaient ça très bien en faisant disparaître des personnages.
Ouais.
Mais quand on est dans un truc comme ça, de thriller, tout peut arriver, mais on n'a pas besoin de tuer des gens toutes les 5 minutes. Voilà, je me suis amusé à me donner un rôle, moi, dans la série, avec un personnage. Avec... Ouais, tout pourrait arriver avec ce personnage. Mais non.
Mais en fait,
on en fait... Il aboutit.
On s'amuse avec ça.
Voilà, on s'amuse avec ça. On s'amuse avec les codes d'un genre. Pour d'abord se poser la question, le whodunit qui a tué, c'est toujours chouette. Maintenant, donner un peu de tension et de s'amuser à faire peur avec qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir,
ou avec les profondeurs de champ, avec la vitre, avec la maison vitrée, voilà, etc. C'est des choses qui fonctionnent toujours.
Ouais, on a structuré le genre, on parlait de Poltergeist, qui est un film que moi j'ai vu, que mes grands frères et sœurs m'ont obligé à voir, où je devais avoir l'âge d'Élodie quand je l'ai vu. Donc, j'en ai un souvenir assez intense.
Je l'ai vu à cet âge-là aussi.
Voilà, 45 ans après, je m'en souviens encore assez bien. Et c'est ces impressions-là que je voulais retrouver et recréer dans un truc d'amusement, parce que je vois bien quand on l'a projeté dans des salles, les gens ils sursautent et ils se marrent tout de suite derrière d'avoir sursauté sur des petites choses et c'était pas prévu.
Mais c'est ce qui fonctionne, c'est comme l'année dernière quand France Télévisions diffuse L'Intruse, on aime bien voir la babysitter qui d'un seul coup apparaît derrière la porte ou en bas de l'escalier.
Voilà,
voilà. Ça, c'est de la convention, c'est peut-être même du cliché du genre, mais c'est des clichés qui fonctionnent, ouais, tellement bien quand on les a pas finalement, on est en manque de pas les avoir.
Ouais, ouais,
c'est ça qui fait.
Nous on se pose des questions sur le spectateur, il est très éduqué quand même maintenant. Il a quand même bouffé de l'image comme aucune génération avant. Donc, quand on doit le faire sursauter, on se pose vraiment des questions de par où, si c'est quelqu'un qui rentre dans le champ, par où il va arriver? Ou est-ce qu'on s'arrange pour qu'il soit là dès le début, mais comme l'acteur bouge pas, on l'a pas vu, et il bouge d'un seul coup. J'adore. Il y a un film génial de, qui s'appelle Audition.
Ouais.
Avec le sac à côté du téléphone. Ça, c'est un des meilleurs jumpscares de l'histoire du cinéma.
Mais c'est justement Hitchcock qui racontait comment il imaginait faire peur aux gens. Et il dit, il y a deux solutions. C'est la bombe placée sous la table. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous montrez la bombe et le compte à rebours qui défile, soit d'un seul coup, vous faites péter tout et il y avait une bombe sous la table.
Ouais.
Toi, t'es plutôt la deuxième, t'es plutôt la bombe sous la table qu'on voit le compte à rebours remonter finalement.
Ouais, bah ça c'est le thriller. Mais ce qui est marrant, c'est de montrer la bombe qui va exploser, mais c'est pas celle-là qui explose, c'est une autre.
Une autre.
Voilà. C'est en fait, c'est de jouer avec ce truc-là et de surtout aujourd'hui, voilà, comme les gens sont éduqués, il faut faire assez gaffe et s'amuser avec ça parce que le jumpscare, c'est avant tout un truc pour se marrer. Moi, il y a quelques années, je crois que j'ai vu un des films qui m'a fait le plus peur. Et pourtant, je pense que ça se voit dans ce que je fais. Hein. J'aime beaucoup le film d'épouvante, plus que le film d'horreur. C'était Conjuring.
Ah bah oui, évidemment.
Et James Wan, il fait un truc qui est génial, c'est que c'est un film qui ne marche que sur le jumpscare et que sur le truc qui va vous faire peur n'est jamais là où vous l'attendez. Et sur un découpage ultra simple. Par contre, quand on se rappelle de Conjuring, bah c'est marrant parce qu'il n'y a pas un seul personnage qui meurt. Les gens s'en rappellent comme d'un film d'horreur qui fout super la trouille et en même temps ils ont l'impression qu'il y a des gens qui meurent. Mais en fait,
on a peur pour eux, mais
il n'y a pas un seul personnage qui meurt dans ce film. Par contre, on a vraiment la sensation permanente que tout peut arriver. Et en plus, il fait un truc. C'est Hitchcock a raison aussi. Hein, c'est la peur primale. Voilà. À partir du moment où on joue avec des enfants et qu'on met des enfants dans ces situations-là, il y a un procédé d'empathie du spectateur qui se rappelle, parce qu'on a tous eu ces peurs-là dans le noir, petit, ou alors c'est qu'on est un psychopathe.
C'est le monstre sous le lit.
C'est le monstre sous le lit, c'est le monstre dans le placard, c'est je suis tout seul, j'arrive pas à dormir, est-ce que je peux avoir une veilleuse, etc. Et donc à partir du moment où on fait ça avec des enfants, on projette tout le monde là-dedans. Plus, nous on a rajouté, il y a une couche en plus, c'est est-ce que la vision des parents vers l'enfant et le truc qui se retourne un peu, l'enfant qui commence à se poser des questions sur ses parents aussi.
Et jusqu'où les parents vont aller
jusqu'où on est prêt à aller pour ses enfants.
Pour ses enfants et pour les protéger, voire... Ouais. Parce que dans La Malédiction, évidemment, ceux qui ont vu le film savent que ça va très 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 loin quand le père comprend que la menace, elle est réelle et qu'il faut l'arrêter à tout prix. Alors là, ça aide puisque c'est pas leur enfant propre. Ouais. Enfin, c'est quand même un enfant qu'ils ont adopté. Et on est à une époque où montrer des enfants qu'on peut potentiellement assassiner, c'est quand même très particulier. Donc,
Ouais. Après, aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous, on spoil pas la fin, mais il y a pas mal de surprises.
Non, mais c'est vrai que ça reste un tabou de montrer des enfants.
Ça reste un tabou.
On dit qu'une série qui tue un enfant aujourd'hui, on se dit que dans la série, tout peut arriver. Donc,
Mais moi, je pense que c'est une question que tout le monde se. Enfin. Dès qu'on a des enfants, on va se poser à un moment ou à un autre. S'il fait une grosse connerie, comment on réagit, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On le protège, on le protège pas ? Enfin, quand je dis une grosse connerie, ça peut aller d'être pas sympa avec d'autres enfants à l'école.
C'est toutes les questions qu'on
a. Moi, j'ai quatre enfants, j'ai deux garçons, deux filles. Des conneries, il y en a eu, et à chaque fois, c'est difficile de... d'aller à l'école, de dire ouais, il a un peu déconné, et en même temps on a envie de dire ouais, ça va, on va pas. Donc quand on passe à l'étape du dessus, le meurtre,
c'est
une vraie question, quoi. Je me suis toujours dit, quand on est les parents quand on voit des faits divers à la télé, je me dis putain, ça va être chaud d'être le parent de cette personne. Comment tu réagis, quoi? Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis ok, t'es mon fils, t'as fait une grosse connerie, tu vas assumer. C'est chaud quand même. C'est chaud. Bah, indépendamment de ce qu'a fait la personne. Pour soi, il y a une super série comme ça auquel je pensais pas mal. Zut, j'ai oublié le truc sur Apple avec.
La série de.
Oui, de lui.
Donald Shyamalan.
Non,
pas celle-là.
Le truc avec Kate Blanchett et Sacha Baron Cohen. Et il y a cette question. Alors c'est pas la question principale de la série, mais il y a ce truc des parents qui vont comprendre bien à la fin, alors que leur fils n'est plus, qu'en fait lui était un psychopathe et que rien n'est ce qu'ils sont. Et il y a ce truc des parents et dans un couple, il y a la mère qui a toujours dit non, jamais il aurait fait ça. Et qui est morte avec cette idée-là, et le père, bien après, qui s'aperçoit que tout le monde s'est trompé, et que son fils était une sacrée ordure, et que lui s'est trompé aussi. toute sa vie. Et ça, c'est vraiment...
Vivre avec ça, c'est compliqué.
Voilà. Et c'était une des questions qu'on se posait avec Lola et David, de comment on la regarde. Avec le père qui est beaucoup plus... qui se pose moins de questions dans sa relation voilà, d'un père à une fille. Et la mère qui est un peu plus distanciée, aussi parce qu'elle est plus présente dans la vie de sa fille...
Je peux vous dire, hein, pour avoir vu la série, il marche sur des œufs pour pas,
ouais, pour pas spoiler. Hyper dur.
C'est hyper compliqué, c'est la promo la plus difficile parce que il faut rien dire parce que toutes les cartes sont redistribuées.
Ça se retourne tout le temps.
Ça se retourne tout le temps.
Moi, c'est ce que j'avais adoré à la lecture.
Et c'est ça qui marche. Ouais. C'est qu'effectivement, on est sur un page turner en permanence.
Le cliffhanger de la première soirée, donc du deuxième épisode, moi, à la lecture, j'avais laissé tomber le scénario en me disant, waouh, enfin, j'en avais pas vu des comme ça.
Il faudra attendre. Non, mais tu vois, si je t'entraîne trop, tu vas spoiler.
Voilà.
Ce monsieur est capable de nous provoquer les plus grandes peurs.
Non,
mais tu es capable de nous provoquer les plus grandes peurs, c'est ça qui est agréable.
Ouais.
Je voudrais terminer là-dessus parce que t'es un magicien à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on a Fred Grivois qui arrive à la tête d'une série, on sait qu'on va pas avoir quelque chose de banal et qu'on va avoir quelque chose de différent. C'est ça qui, moi, m'intéresse quand je vois ton nom apposé en signature d'une série.
C'est toujours un peu. Ouais, c'est pas si facile. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on m'envoie où on me dit ouais, alors c'est super, mais fais pas comme la dernière fois. C'est pas...
Et des fois c'est bien de faire comme la dernière
fois.
C'est
ce qu'on achète. Ouais, voilà. Non, mais je pense que c'est un truc vraiment fun. Je sais pas si on peut.
Non, c'est.
Parce qu'on a... Non, on arrête.
Ouais, il va falloir arrêter parce que j'ai peur qu'on spoil.
Non, c'est parce que pour l'instant, de ce que j'ai compris, ça marche très bien.
Ah, ça marche très bien. Ah oui,
c'est sur France TV. Sur ça marche très bien. Voilà, on m'a envoyé quelques chiffres et je dois dire que j'étais moi-même assez étonné.
Le public est adepte de ce genre de choses et il a envie de voir ce genre de mini-série.
Ouais, donc,
et
je trouve ça super parce que je tiens à défendre le service public. Je suis désolé, je prends un peu plus de temps, surtout qu'il est pas mal attaqué en ce moment.
Ouais, non, mais complètement.
Et là-dessus, franchement, c'est vraiment super que Anne Holmes nous laisse, voilà, les créateurs travailler avec des sujets comme ça qu'on nous amène. Ou qu'on développe nous-mêmes, hein. Mais ouais, c'est super que ce soit sur le service public, que ce soit des grandes soirées France 2, quand on travaille pour les autres. Il y a moins, alors, sauf si on va travailler en plateforme, mais c'est encore un autre délire.
C'est encore autre chose.
Et ils commencent aujourd'hui un peu à nous dire, ouais, les gars, faites attention, enfin, parce qu'on s'adresse à des segments de plus en plus particuliers. Là, on est sur des grands trucs avec y a une commission d'enquête où vraiment, je trouve que ça dit un peu n'importe quoi. Je me permets, hein, ça dit un peu n'importe quoi sur le service public. Voilà, ça, c'est super. On peut faire ça.
On peut faire l'intruse. Ouais. Il y a Enchaîné qui arrive bientôt sur France Télévisions.
Enchaîné qui arrive bientôt.
Qui est une grande série. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a des séries de David Oureg. Il y a plein de belles...
trucs assez originaux.
Ouais. Je suis assez d'accord.
Voilà.
C'est pour ça qu'on a envie de vous arranger.
David, il a fait un film que moi, j'attends avec beaucoup d'impatience sur les CRS. Ouais. Avec ma copine Margot Bansillon.
Ouais, complètement.
Voilà, il y a, je pense que ces trucs-là, enfin, pour d'expérience, hein, pour avoir présenté des projets à un peu tout le monde, voilà.
C'est de la vraie mission de service public de proposer des sujets
faire du contenu original, quoi. Parce que, sincèrement, aujourd'hui, dans la bataille, ce qu'ils appellent la bataille pour l'attention, la sincérité, l'émotion et l'originalité, il n'y a que ça. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire, ouais, on va faire des trucs sur. Des sujets d'actualité. Non, la sincérité dans ce qu'on raconte et parler du monde tel qu'il est,
c'est important.
C'est ce qu'il y a de plus important et c'est comme ça qu'on fait venir les gens. Voilà, c'est pas en faisant c'est pas en formatant en disant oui, attention, les gens ils aiment bien ci, ils aiment bien ça. Non, donnons-leur ce que donnons, voilà. c'est comment il s'appelait, c'est donnons aux gens ce qu'ils pourraient aimer, pas ce qu'ils aiment déjà.
On finira sur cette très belle maxime parce que ça correspond totalement.
Elle est pas de moi, mais j'ai oublié de qui elle est.
Ça correspond très très bien à je sais pas, une petite mini-série qui va vous envelopper et vous zapper dans son suspense, réalisée donc par Fred Grivois qui était notre invité. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On a essayé d'être de pas trop spoiler, mais d'accompagner cette série parce qu'on y croit beaucoup. Elle a été présentée au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle et évidemment ça appartient au
en
service
sélection.
Public en sélection et ça appartient au service public effectivement. De proposer ce genre de mini-série extrêmement singulière et on continuera de les accompagner dans ce registre-là. Merci aux équipes de France Télé qui ont permis à cette émission de se faire. Merci à David Oureg aussi qui propose beaucoup de choses. Merci à Charlène Monsara, merci à tous ces réalisateurs de talent et merci à Fred Grivois d'être venu aujourd'hui. Déplacement compliqué, mais il est arrivé
oui,
et on en est ravis. Et c'est un grand plaisir pour lui et pour nous d'avoir été avec lui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Loi des séries. C'était un plaisir de vous accompagner. C'est sur France.tv et sur France 2 à partir du 6 avril pour Je sais pas.